Bonsoir à tous. Je suis bien content que vous soyez tous là, même des nouveaux qui se sont rajoutés. On souhaite la bienvenue à ceux qui se connectent pour la première fois. Puis, bienvenue à tous ceux qui se connectent régulièrement. C'était bien plaisant que la réponse qu'il y a eu pour la conférence à Rivière-du-Loup, on était vraiment encouragés de voir tous ceux qui sont venus puis de rencontrer plusieurs qu'on n'avait pas rencontrés en personne. Il y en a qu'on les connaissait déjà en personne, mais d'autres qu'on n'avait jamais rencontrés en personne. C'était très plaisant de vous rencontrer. Puis là, on est encore plus proche. C'est que si vous voulez, on va continuer avec notre étude. On est dans Hébreux au chapitre 8, une meilleure alliance. On est rendu une meilleure alliance. On avait commencé la semaine passée, on avait fait les versets 1 à 5, mais on va lire quand même les versets 1 à 5, puis là, on va aller vers les versets 6 à 13, une meilleure alliance. Donc, on va lire à partir du verset 1 du chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Ni personne son frère en disant Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. On va demander l'aide du Seigneur dans l'étude de sa parole. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore ce soir pour ce temps qu'on peut passer ensemble dans ta parole. Et Seigneur, on te remercie pour cette parole qui est si riche, si merveilleuse, parce que c'est toi, c'est ta communication envers nous. Toi qui as voulu te révéler à nous, qui as voulu te faire connaître. Et tu veux nous faire connaître aussi, Seigneur, l'abondance de cette vie. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle l'est en abondance. On te remercie, Seigneur, pour toutes ces choses précieuses que tu nous révèles, puis qui nous donnent vraiment cette vie abondante. Donc, on te demande ta bénédiction ce soir sur notre étude, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait vu dans les versets 1 à 5 du chapitre 8, il parlait un tel souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, comme on avait vu, c'est lui qui va avec l'alliance pour appliquer l'alliance au peuple. Puis là, on a maintenant comme souverain sacrificateur pour cette nouvelle alliance-là. C'est ça qu'il nous parlait d'une alliance plus excellente, une nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus étant le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui a été donné avec cette nouvelle alliance-là pour faire en sorte, pour officier pour nous dans cette nouvelle alliance-là. Donc, on avait vu ça. Puis il parle, on a vu aussi qu'il parlait beaucoup de ce qui était sur la terre en comparaison avec ce qui était dans le ciel. Et c'est ça, il disait que même s'il avait été sur la terre, il n'aurait même pas été sacrificateur, mais il était sacrificateur d'une meilleure alliance, dans un meilleur tabernacle. Le tabernacle, comme il était dit au début, il était fait Alexa, ou selon le modèle que Moïse avait vu. C'est un tabernacle qui avait été construit par les hommes avec les instructions d'un homme qui avait vu le modèle, la réalité dans le ciel. Et celui-là était en imitation du véritable. Donc le véritable est plus grand que l'imitation, que la copie. Puis c'est là qu'on voyait ça. C'est maintenant, on est dans. On n'a plus des choses qu'on voit avec nos yeux, comme dans l'Ancien Testament, tout était avec pour les yeux, avec les sens, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau spirituellement. Il y avait l'Esprit qui venait sur eux pour des occasions où le Seigneur leur donnait un travail à faire. Mais dans cette nouvelle alliance-là, on va voir ça aussi, que maintenant on est habité par l'Esprit, on est en communion, donc on n'a plus besoin des choses terrestres. On n'a plus besoin des choses qui sont en imitation du véritable, mais maintenant, par la foi, on a accès dans ce qui est réel, là où le Seigneur Jésus est, là où il officie pour nous, là où il a présenté son sacrifice pour nous. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. Donc, on parle de la nouvelle alliance au verset 6. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, c'est quelque chose de plus grand. Puis, on se souvient que l'Épître a été écrite à des Hébreux qui avaient la tendance de vouloir ou le désir de retourner en arrière parce que c'était un peu comme si c'était un peu trop pour eux autres d'aller par la foi dans cette réalité-là. Puis, il y avait tendance, probablement aussi à cause de la persécution de leur père, et qui voulaient retourner à ce qui était charnel. On aime pouvoir toucher, on aime pouvoir voir, comme Thomas qui a dit, je ne croirais pas si je ne mets pas mon doigt dans les trous dans ses mains, ma main dans son côté. Puis le Seigneur a dit à Thomas, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Puis là, c'est l'aventure. Dans cette nouvelle alliance-là, ben c'est de pouvoir jouir des choses qu'on ne voit pas, jouir des choses qu'on ne ressent pas, qu'on ne peut pas toucher, parce que c'est tout par la foi, mais c'est d'autant supérieur. Quand on pense que nous, ce n'est pas un sanctuaire terrestre qu'on a accès, mais un sanctuaire céleste, le vrai, le véritable, celui que Moïse a vu et qui a construit l'autre en imitation du véritable. On avait dit que ce souverain sacrificateur-là, il est nous. Nous avons un souverain sacrificateur, un tel souverain sacrificateur. Ça, c'est vraiment merveilleux de réaliser que ce sacrificateur-là, il est nôtre. Puis, il y a un sacerdoce qui n'est pas transmissible parce que lui, il n'est pas, il vit à jamais. Le fait que les autres sacrificateurs, la mort les empêchait d'être permanents, mais le Seigneur, parce qu'il vit éternellement, ben lui, il n'y a pas besoin d'être remplacé, il n'y a pas besoin d'être. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Donc, quel privilège d'avoir cette nouvelle alliance. Nous possédons tellement plus pour notre relation avec Dieu. On est tellement choyé, mais c'est certain que c'est par la foi. Puis il faut être né de nouveau pour pouvoir entrer dans cette relation-là. Mais il nous dit aussi que cette alliance-là est établie, donc elle est fondée sur de meilleures promesses. Parce que c'est des promesses c'est avec ces promesses-là, parce que c'est par la foi. Les promesses, c'est la foi qui s'empare des promesses, mais c'est des meilleures promesses qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, la relation n'était pas directe et personnelle avec Dieu. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il ne pouvait pas arriver dans le sanctuaire terrestre, dans le tabernacle, ensuite dans le temple. Il pouvait pas, n'importe qui ne pouvait pas arriver puis entrer, puis aller dans le lieu très saint. Mais nous, on a cette possibilité-là. Nous, on a une relation directe et personnelle avec le Seigneur. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Regardez dans le chapitre 9, au verset 8, il nous dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu, peut-être il y avait un voile, là. Il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc le premier, celui qui était sur la terre. Et puis vu qu'il y avait un voile, c'est seulement le souverain sacrificateur qui, une fois par année, avec le sang, pouvait se présenter. Puis c'est ça, le Saint-Esprit nous montrait par là que le premier tabernacle, tant qu'il subsistait, on n'avait pas accès à Dieu. Mais ça, c'est différent pour nous maintenant, là. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous, la relation est directe et personnelle avec notre souverain sacrificateur. Puis, c'est pourquoi? Parce que notre souverain sacrificateur, il est Dieu lui-même. Donc, en rentrant en contact avec lui, on rentre en contact avec Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Donc, c'est ce qui est merveilleux dans cette nouvelle alliance-là. On a une relation directe et personnelle avec lui. On voit ça quand on va arriver, quand il dit que un n'enseignera pas l'autre, mais on va tout être enseigné par le Saint-Esprit. On verra ça quand on arrivera là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir l'enseignement, mais ça veut dire que on connaît chacun de nous personnellement. On a reçu le témoignage de l'Esprit qu'on est des enfants de Dieu, puis on connaît la vérité par le Saint-Esprit qui nous a éclairés dans la parole de Dieu, ceux qui sont sauvés. Donc, on entre, nous, dans le lieu très saint, nous-mêmes. Ce n'est pas un souverain sacrificateur seulement qui rentre, mais nous, on entre. Regardez dans le chapitre 7, le verset 19 à 20, il dit, « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, et cela n'a pas eu lieu sans serment. » Donc, nous, c'est nous qui nous approchons de Dieu. Avant ça, dans l'Ancienne Alliance, il fallait que quelqu'un s'approche pour nous. On avait un intermédiaire, le souverain sacrificateur, c'était lui seul. Le peuple ne pouvait pas s'approcher, mais lui seul pouvait s'approcher une fois par année dans le lieu très saint. Donc, c'est pour ça que, dans un sens, l'Ancienne Alliance, elle n'était pas parfaite. Et dans le verset 7, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. On parle de l'alliance avec tout le système lévitique de l'Ancien Testament. Si elle avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu besoin, si elle avait été parfaite, on n'aurait pas eu besoin de la remplacer. Mais c'est là que c'est avec comme un blâme là, au verset 11, voyez-vous, dans le chapitre 7, au verset 11, il dit, attendez un petit peu, au verset 11, il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Oui, il parle ici que l'Ancienne Alliance, elle n'était pas parfaite. Il y avait des défauts dans l'Ancienne Alliance, puis c'est ça qu'on regarde un peu ensemble. Pourquoi? Parce que la perfection est en Christ. Parce que toutes ces choses-là, ensemble, représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était image et ombre, comme on a vu déjà, c'est image et ombre des choses. Quand on voit un ombrage, vous savez, on voit un ombrage de. Puis même quand on parle d'image, on s'était tous connus sur Zoom. Mais quand on se voit en réalité, c'est pas pareil. Il y a une différence. La réalité est mieux que ce qu'on peut voir sur Zoom. Fait qu'une image, ça donne pas vraiment. Puis même une photo, on voit quelqu'un sur une photo. Puis c'est pas comme quand on le voit en personne. Puis l'ombre, quand on pense à l'ombre, c'est sûr que j'ai mon ombre, moi. Quand la lumière frappe sur moi, ça projette un ombre. L'ombre donne certains détails de qui je suis, peut-être ma physionomie, mais il y a bien des détails qui sont pas dans l'ombre. Parce que c'est impossible. Mais quand la réalité est là, bien, c'est là qu'on voit. C'est pour ça que ces choses-là étaient images et ombres. Mais c'est comme la joie qu'on a quand on s'est connu comme ça sur Zoom, puis qu'on se voit en personne. Il y a une joie. Après ça, quand on se revoit sur Zoom, bien, on a une meilleure idée de la personne, parce qu'on l'a vu. Puis c'est ça, dans l'Ancien Testament, c'était image et ombre des choses à venir. Mais quand on a connu la réalité, c'est pour ça que c'était important pour eux de ne pas retourner en arrière. Pourquoi qu'on voudrait retourner en arrière quand on a connu meilleur? Puis c'est toujours pour ça qu'il dit toujours que c'est le meilleur, puis c'est sans défaut. Si l'ancienne alliance n'était pas parfaite, c'est parce que la perfection est en Christ. Lui, il est la perfection. C'est ça qui est merveilleux. Pourquoi qu'il y a eu l'ancienne alliance avant d'entrer dans la nouvelle alliance? Ben, c'était parce que Dieu se révèle d'une façon progressive. Vous savez, si Dieu ne peut pas se révéler à nous tout d'un coup, parce que c'est trop, on ne serait pas capable d'assimiler. Il s'est révélé à travers les âges, les dispensations. Le Seigneur s'est révélé d'une façon progressive à l'homme. Il a fait connaître des choses. Puis l'homme ne voyait pas Dieu, mais il voyait des choses qui étaient enseignées par rapport à qui Dieu. On pense à la sainteté de Dieu, on pense à la toute-puissance de Dieu, on pense à, dans la création, comment il s'est révélé dans sa création. Et maintenant, en Jésus-Christ, il se révèle d'une façon tellement plus grande. Puis là, la perfection est. C'est pour ça le fait qu'il y a eu une alliance auparavant, c'était vraiment un but que Dieu poursuivait de finir par nous amener à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Quand on est en Christ, c'est la perfection. On a tout pleinement en lui. Mais la loi qui avait été donnée auparavant était un précepteur. Puis dans Young, il dit, lui, c'est un conducteur d'enfants. Ou c'est comme un tuteur. C'est quelqu'un à qui la charge a été remise de prendre l'enfant, puis de l'acheminer jusqu'au point où il pouvait aller à l'école, puis arriver à l'école. C'est comme ça que la loi, c'est ça qu'elle était dans Galates au chapitre 3, au verset 24, il dit, Ainsi la loi a été comme un précepteur ou un conducteur d'enfants pour, donc le but de la loi, il y avait un but, c'est pas que Dieu a fait une erreur, c'est pas que parce qu'elle n'était pas parfaite que Dieu avait fait une erreur, mais c'était le cheminement, c'était la façon que le Seigneur se révélait à nous pour nous emmener. Puis à cause de la loi maintenant, là on peut comprendre Christ qui est arrivé. Il dit, ainsi la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Vous savez, quand des fois il y a dans des tribus qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ben, des fois c'est bon de commencer par la Genèse pour leur présenter qui est Dieu, puis avec tout l'Ancien Testament, leur démontrer c'est quoi la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, pour après ça leur présenter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment l'image du Dieu invisible. Donc, il a été présenté comme ça pour nous emmener à Christ. Scofield, une note dans la Bible, Scofield dit, La loi conduisit Israël jusqu'au temps de la venue de Christ. Comme l'esclave précepteur conduisait l'enfant jusqu'à l'école. Le peuple juif a été préparé, en même temps les nations. Parce que nous autres, quand on retourne aussi dans les écrits, dans l'histoire du peuple juif, on retourne dans ces choses-là, puis le Seigneur Jésus lui-même, il a emmené les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il les a emmenés dans l'Ancien Testament pour leur faire comprendre les choses qui le concernaient, pour leur faire comprendre qui il était. Puis, ils ont trouvé ça comme une grande révélation quand le Seigneur leur a montré ces choses-là. Mais le fait qu'elle soit remplacée, cette alliance-là, démontre qu'elle n'était pas parfaite. C'était comme un but vers la chose qui était parfaite. C'était pour nous emmener à la réalité en Christ. C'est ça qui est important. Donc, pour eux, c'était le message à comprendre. Les Hébreux ici, il fallait qu'ils comprennent ce message-là. Maintenant, la nouvelle alliance était tellement supérieure qu'il ne devrait plus jamais vouloir retourner à ce qui était en arrière, retourner à la loi, puis retourner au culte terrestre, dans le sanctuaire terrestre qui était encore là au moment où ils ont écrit, où l'Épître a été écrit. Après ça, elle allait être détruite. Mais vraiment, le Seigneur les préparait à ce que lorsque ce serait, là, c'est comme s'il y avait le choix de retourner en arrière. Mais bientôt, dans l'an 70, le temple a été détruit. Puis là, ils n'ont pas pu, il n'y en a pas eu de temple depuis ce temps-là. Fait que, mais c'était du fait qu'il fallait qu'ils comprennent qu'il n'y avait plus besoin du sanctuaire terrestre. Dieu, il l'a enlevé parce qu'il a établi une nouvelle alliance. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous savez, on pense des fois que les nations sont au contrôle des choses, mais les gouvernements, les hommes sont au contrôle des choses. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout ça. Puis c'est lui qui a permis. Quand il a voulu construire son sanctuaire à Jérusalem, il a fait venir l'or de partout pour venir faire ces choses-là. Puis c'était des choses tellement précieuses. Puis quand il en a eu fini, il a laissé l'or-là. Le Seigneur, les gens, après que le temple a été brûlé, ils ont accompli la prophétie du Seigneur qui avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Parce que quand le temple a brûlé, l'or a fondu, puis elle a coulé entre les pierres. Puis le Seigneur il les a laissés prendre cet or-là. Il aurait pu les empêcher, mais ce n'était pas le but. Le but était atteint avec le premier sanctuaire. Puis les gens sont allés, puis ils ont levé toutes les pierres pour ramasser l'or qui était coulé entre les pierres. Puis ça accomplit la prophétie du Seigneur qui avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de cet édifice-là, que les disciples étaient émerveillés quand ils admiraient le temple. Donc on voit au verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Puis c'est ça, il était rendu à ce point-là, que ces choses-là, elles étaient au point de disparaître, mais le Seigneur les a laissées disparaître pour que maintenant on ne tourne plus les regards vers ça, mais qu'on regarde les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est la réalité de toutes ces choses-là. Ces choses-là parlaient de lui. Mais voyez-vous, dans le verset 8, il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, le blâme se trouvant pas, la faute est trouvée, c'est quoi? La faute était trouvée avec le résultat qui était atteint en eux, là. Cette alliance-là n'a pas produit en eux le résultat désiré ou attendu. C'était pour les amener à désirer la réalité. C'était pour les amener à vouloir recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette alliance-là n'a pas produit en eux le résultat désiré ou à atteindre. C'est pour ça qu'il est question d'une nouvelle alliance ici, d'une nouvelle alliance basée sur des meilleures promesses. Puis on va voir ça en avançant. Donc, on pense les éléments d'une alliance, parce que dans une alliance, il y a des choses, et c'est basé sur des promesses que Dieu a faites. Donc, il y avait les éléments de l'alliance, c'était selon les promesses, puis avec un souverain sacrificateur pour appliquer cette loi-là. Il fallait qu'il y ait un souverain sacrificateur pour pouvoir appliquer cette loi-là, appliquer l'alliance au peuple. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas tout ce qu'on retrouve dans la nouvelle. Dans la nouvelle, maintenant, on retrouve une relation intime. Pourquoi qu'on retrouve une relation intime? Parce que dans l'ancienne alliance, le péché était seulement couvert. Puis il fallait constamment offrir des sacrifices à chaque année pour pouvoir que les péchés soient couverts. Mais nous, c'est un seul sacrifice dans cette alliance-là. Puis notre péché est enlevé pour toujours. C'est ça qui permet maintenant qu'on peut avoir cette relation-là intime dans cette nouvelle alliance-là. Aussi, cette nouvelle alliance-là nous a donné la présence de l'Esprit en nous. Eux, il n'y avait pas ça dans l'Ancien Testament. Mais c'est à cause du fait que cette alliance-là est basée sur des meilleures promesses, sur un meilleur sacrifice, avec un meilleur sacrificateur. Maintenant, on a la présence de l'Esprit. Dieu a fait habiter son Esprit en nous. On a l'assurance d'être sauvés pour l'éternité. Le sang qui continue à avoir son effet purificateur sur nous, parce que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, dans 1 Jean, il nous dit que nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on a le sang dans cette alliance-là. C'est sûr qu'on est encore des pécheurs, mais quand on marche dans la lumière, le sang de Jésus a un effet purificateur. Il nous purifie de nos péchés, parce que si on n'était pas purifié de nos péchés, on ne pourrait pas être dans l'intimité du Seigneur. Et vous, le Seigneur, dans cette nouvelle alliance-là, il a pourvu à toutes ces choses. On sait que le peuple allait au temple, puis le sacrificateur se présentait dans la présence de Dieu, puis quand il était reçu, tout le peuple était reçu, mais ce n'était pas eux, chacun d'eux, personnellement. C'était pour le sacrificateur comme représentant. Mais nous, maintenant, on est dans la communion à chaque jour. On vit dans la communion avec le Seigneur. C'est comme si on était dans la présence du Seigneur parce qu'il est venu habiter en nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller à nulle part sans lui. Il est toujours avec nous. Ça, c'est tellement plus grand, plus précieux dans cette nouvelle alliance-là. Le sang qui continue de nous purifier. Puis, on pense à notre accès qu'on a au trône de la grâce. Dans l'ancienne alliance, il fallait qu'il y aille au temple avec un sacrifice, puis que quelqu'un officie pour eux. Mais nous, on peut aller directement dans la présence de Dieu. On a accès au trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Et c'est important, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment merveilleux. Puis aussi, on a un avocat auprès du Père qui est constamment. Et des fois, quand on a besoin d'aller prendre un avocat, on ne veut pas qu'il travaille trop parce que quand il travaille, c'est plus cher. Mais notre avocat, il est constamment là auprès du Père, puis il est constamment. Puis le Seigneur a dit lui-même qu'il se sanctifiait. pour nous. Quand dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, je me sanctifie, ça veut dire qu'il s'était mis à part pour ce travail-là, d'être un avocat auprès du Père pour nous, puis il est constamment là. Puis on n'a pas peur de la facture parce que c'est lui qui l'a payé par son propre sang. La facture est acquittée, puis tout est correct. Mais on voit toutes ces choses-là dans cette nouvelle alliance-là. Là, on retrouve la relation intime parce que le péché est enlevé. On voit la présence de l'Esprit parce que le Seigneur avait promis à ses disciples que son Esprit viendrait habiter en lui. On va voir ça. Puis il y a le sang qui continue constamment de nous purifier pour qu'on reste en communion avec lui. Puis on a l'accès au trône de la grâce n'importe quand, aussi souvent qu'on veut, dans nos besoins. Quand on est dans le besoin, on n'a pas besoin d'aller voir un intermédiaire, mais on entre au trône de la grâce instantanément dans la prière pour trouver secours dans nos besoins. Puis on a un avocat auprès du Père qui nous représente constamment devant le Père, puis qui c'est lui, c'est Jésus-Christ le juste. Donc dans sa position de juste, il est la propitiation lui-même pour nos péchés. Fait qu'il est tout le temps là pour nous autres. Donc, toutes ces choses-là sont nécessaires pour notre sanctification, c'est-à-dire notre séparation du mal, notre union avec le Seigneur. Ça, c'est important. Mais dans l'ancienne alliance, il nous parle des meilleures promesses dans la nouvelle, mais dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait promis de les bénir s'ils gardaient les commandements. Si on va dans Exode au chapitre 19 au verset 5, Exode 19 au verset 5. Exode 19 au verset 5, le Seigneur avait promis, il avait fait des promesses, et on voit sur quoi qu étaient basées ces promesses. 19 au verset 5, il dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, il y avait une condition: si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma voix, si vous gardez mes commandements, la promesse était faite. Si vous gardez mon alliance. Donc, il y avait une condition pour eux de garder l'alliance. Dans Deutéronome 7, au verset 12 à 13, il dit: Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile. Donc, il promettait de les bénir s'ils gardaient l'alliance qu'il avait fait avec eux. Mais dans la nouvelle alliance, il a promis aussi de nous bénir. Mais il a promis à nous bénir juste parce que Christ est mort pour nous. Voyez-vous, la nouvelle alliance est basée pas sur notre obéissance à nous, elle est basée sur l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a acquis ou qui garde ou qui est le garant de ces promesses-là, de nous bénir parce que lui, il est juste. Puis lui, il est obéissant. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, on voit ça dans Éphésiens 1. Là. Dans Éphésiens 1, il dit que béni soit le Père. Attendez un petit peu, on va aller dans Éphésiens au chapitre 1. Dans les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Donc, Éphésiens au chapitre 1, il dit au verset 3: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et vous, c'est plus si vous observez, si vous gardez l'alliance, mais c'est le Seigneur Jésus qui a établi l'alliance, est établie sur lui. Il dit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, puis ainsi de suite. On a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en lui, à cause de lui. C'est pour ça que c'est des meilleures promesses, parce que lui était parfait. Lui, il garde cette promesse-là pour nous. La nation d'Israël avait été divisée, ben, c'est certain, c'est à cause du péché, c'est à cause de leur désobéissance, parce que Dieu avait établi à Jérusalem l'endroit où ils devaient faire le culte. Mais eux, ils ont décidé les 10 tribus du Nord, sous Jéroboam, ils se sont séparés de Jérusalem. Puis Jéroboam, il a fait un autel pour pas qu'il retourne à Jérusalem. C'était la désobéissance. Là. Maintenant, il adorait, comme la femme samaritaine a dit: Vous autres, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et nous autres, nos pères ont adoré sur cette montagne. Le Seigneur leur a dit, c'est pas sur cette, voici le jour vient, ce ne sera pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez, parce que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est là, dans le Seigneur Jésus. Mais il avait désobéi, puis c'est pour ça qu'on est arrivé avec le royaume du sud, qui était Juda, avec Benjamin, puis une partie de Manassé. Mais il y avait le royaume du nord qui était divisé, les 10 autres tribus qui étaient séparées de Juda. Donc, il avait plus accès au temple, à l'endroit que le Seigneur avait, où il avait établi son alliance. Mais dans cette nouvelle alliance-là, il les rejoint les deux, il les réunit. Regardez, voyez-vous, verset 8, il dit, car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc cette nouvelle alliance-là, elle est réunie, puis on le voit dans Ézéchiel, là, il dit, prends un bois pour Éphraïm, puis un bois pour Juda, puis joins-les ensemble. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une promesse de Dieu qui est vraiment merveilleuse. On sait que cette alliance-là nous concerne aussi, mais elle concerne aussi Israël. Parce qu'un jour, Israël vont rentrer dans cette nouvelle alliance-là. On sait quand ils vont se repentir, ils vont rentrer. Puis en ce jour-là, il n'y aura plus la division dans le royaume qui n'a jamais été réconcilié, le royaume du sud avec le royaume du nord. Puis même, il en était venu, on sait que les Juifs, il n'y avait pas de relation avec les Samaritains. Parce que le royaume du Nord a été mélangé avec les autres nations, puis il les voyait comme impurs, puis il n'y avait pas. Mais dans cette nouvelle alliance-là, quand nous autres, on est dans cette nouvelle alliance-là, mais quand Israël va rentrer dans cette nouvelle alliance-là, Dieu va les joindre ensemble, puis maintenant, il n'y aura plus deux royaumes. Quand le Seigneur Jésus va être sur le trône de son règne, il va régner sur toute la maison d'Israël. Puis ça semble impossible, mais c'est possible. Parce que le Seigneur est capable d'aller chercher partout où ils sont, il est capable de les ramener ensemble. Ça, c'est la grandeur de Dieu, puis c'est basé sur ses promesses avec lui. Mais au verset 9, il dit, nous, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc, c'est l'alliance qu'il avait faite avec eux autres, c'était à leur sortie de l'Égypte. Quand ils ont sorti de l'Égypte, c'est là que Israël est devenu une nation. C'est là que Dieu a fait, c'était la famille de Jacob qui était allée en Égypte, puis ils se sont multipliés, mais ils n'étaient pas une nation. Quand le Seigneur les a sortis de l'Égypte, là, il a fait d'eux une nation, puis il a fait d'eux son peuple, puis c'est là qu'il a fait une alliance avec eux. Et quand ils ont sorti, mais ils n'étaient pas consistants dans cette alliance-là. On voit qu'elle était basée sur l'obéissance, si vous gardez cette alliance. Lui, le Seigneur, il la garde, son alliance, mais eux, ils ne la gardaient pas. On sait que après qu'ils ont sorti d'Égypte, ben, ils louaient Dieu dans leur victoire. Quand il y avait une grande victoire, le Seigneur leur avait donné une grande victoire, là, ils louaient Dieu, puis ils lui rendaient un culte, mais autrement, ils adoraient leurs idoles. Ce qui n'était pas consistant dans l'alliance. Tantôt, ils adoraient Dieu, tantôt, ils adoraient leurs idoles. On voit que il leur fait le reproche hein, quand ils étaient dans leur marche dans le désert. Il y avait avec eux le Dieu enfant, puis il y avait leur Dieu qui avait traîné avec eux autres, qui avait emmené de l'Égypte. Donc, ils étaient partagés. Le Seigneur était entier envers eux autres, mais ils n'ont pas persévéré dans cette alliance-là parce que tantôt, ils louaient Dieu, puis tantôt, ils adoraient leurs idoles. Puis, ils ont fait ça tout le temps jusqu'à temps qu'ils soient emmenés en captivité, puis c'est pour ça qu'ils ont été emmenés en captivité à Babylone, qui est la capitale de l'idolâtrie, parce que le Seigneur dit, OK, vous voulez adorer vos idoles, ben, je vais vous envoyer. Vous allez en avoir des idoles. Vous allez aller au siège social des idoles. Vous ne voulez pas mon sanctuaire à Jérusalem, ben, je vais vous envoyer là où il y en a de l'idolâtrie, jusqu'au temps qu'il y en a ras-le-bol. Puis c'est pour ça que depuis la captivité, ils n'ont pas eu d'idoles, ils n'ont pas eu de téraphim, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu leur culte non plus. Mais c'est comme si le Seigneur dit, ben, vous voulez des idoles, je vais vous en donner des idoles. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait des idoles pour vous autres. Puis, ils ont rendu un culte. Mais durant à leur sortie d'Égypte, dans leur marche, dans le pays, il y avait des idoles avec eux autres. Ils offraient leurs enfants à Moloch, qui avait Ashtaroth. Ils ont suivi le Dieu des nations, la reine du ciel. On voit ça dans Jérémie. Hein, la reine du ciel que les gens pensent que c'est Marie aujourd'hui, me souviens à un moment donné, mon père, j'avais demandé ça, j'ai dit, Marie, c'est la reine du ciel. Il dit, ben oui, c'est la reine du ciel. Je lui ai dit, sais-tu que la reine du ciel était avant Marie? Et avant que Marie vienne sur la terre, ben, j'ai montré dans Jérémie au chapitre 7 qu'il offrait des gâteaux à la reine du ciel. J'ai dit, ça, c'était bien avant que Marie soit sur la terre. J'ai dit, la reine du ciel, c'est pas Marie. La reine du ciel, c'est une déesse païenne. Puis les Juifs l'adoraient, puis maintenant la religion aussi adore cette reine du ciel-là en lui donnant un autre nom. Mais il dit, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Parce que c'était un peu la faiblesse de l'alliance ici, en vue de la nouvelle alliance. Ça allait être une meilleure alliance. C'est pas que Dieu a fait une erreur. C'est pas à cause de ça, mais il y avait un but là-dedans. Ils ont manqué pour un but, parce que, vous savez, l'Évangile, il y a des gens qui disent, ah oui, moi je crois en Dieu, mais ils n'ont jamais réalisé leur péché. Ils n'ont jamais réalisé leur besoin d'un sauveur. Et, ah oui, moi j'ai tout le temps été religieux, j'ai tout le temps cru en Dieu, j'ai tout le temps. Donc, l'Évangile n'est pas comme ça. L'Évangile, il faut en venir au point de reconnaître notre péché pour reconnaître notre besoin d'un sauveur, parce qu'on ne veut pas d'un sauveur si on n'en a pas besoin. Mais on en a besoin, c'est juste qu'on ne le réalise pas. Mais l'ancienne alliance était pour amener à réaliser leurs besoins. On sait que pour les Juifs, ça va prendre du temps avant qu'ils réalisent complètement leurs besoins. Le Seigneur leur a dit quand il était sur la terre, il dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis ils vont le voir dans la tribulation, quand ils vont être dans une grande souffrance, qu'ils vont être persécutés au point d'être exterminés. Puis quand ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, là, ils vont se repentir. Mais la loi était faite pour ça. La loi était faite pour leur faire comprendre leur péché, parce qu'ils brisaient la loi. Parce que la loi, c'était le ministère de la mort, le ministère de la lettre que Paul y parle dans 2 Corinthiens. Mais c'était pour les amener à connaître, comme dans Romains 7, quand il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais c'est quoi qui a fait en sorte qu'il y en est venu à dire misérable que je suis? C'est parce que là, il y avait la loi qui était comme un fil à plomb qui démontrait que son péché. Puis celui qui va dans la loi, il ne peut pas faire autrement que voir qu'il la brise, la loi. Parce qu'il dit, quand les choses que je veux faire, je ne les fais pas, puis les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Mais c'est la loi qui révèle que les choses que je ne veux pas faire sont mauvaises. C'est parce que la loi dit, tu ne feras pas ça, puis je le fais. Tu ne convoiteras pas, puis j'ai cette convoitise en moi. Donc, c'était le but de cette alliance-là. C'était d'amener à comprendre la sainteté de Dieu, puis notre péché. C'est pour ça que ça, comme il dit, il a failli, il y a un élément de blâme ici, mais c'était pour que cette alliance-là puisse démontrer qu'on n'était pas, on n'était pas à la hauteur. On ne pouvait pas. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'était pour nous emmener à réaliser ces choses-là, puis à réaliser qu'on avait besoin d'un sauveur. C'est ça que, pour ça que l'ancienne alliance a été donnée. Puis, parce que quand Dieu a donné l'ancienne alliance, ce n'était pas la fin, c'était le début. Parce qu'il savait, lui, quand Dieu a donné l'ancienne alliance, il savait que c'était pour préparer le peuple à recevoir la nouvelle alliance. C'est pour ça que nous autres, on connaît notre besoin à cause de la loi de Dieu. Je me souviens quand, à un moment donné, il y a eu des élections, puis il avait demandé à Andrew Scheer, qui était, vous savez, les médias, et tout de suite, ils pointent vers ce qu'ils ne veulent pas accepter. Il avait demandé à Andrew Scheer si l'homosexualité, c'était un péché. Puis lui, il a patiné, il n'a pas voulu rien dire trop, parce qu'il savait que s'il disait que c'était un péché, qu'il allait perdre ses élections. Il a perdu pareil. Mais en tout cas, mais moi, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on répond à ça? Et moi, je me suis dit, c'est sûr que je n'avais pas l'opportunité de répondre à cette question-là, mais j'ai pensé à cette question-là, puis comment qu'on répondrait à cette question-là? Moi, j'ai pensé de dire à ce journaliste-là, dire, c'est toi qui parles de péché, là. Mais c'est quoi le standard? C'est quoi le barème qui détermine ce qui est péché puis ce qui n'est pas péché? Ben, c'est la loi de Dieu. Puis la loi de Dieu dit que c'est une abomination devant l'Éternel. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. C'est toi qui as amené le sujet du péché. Le péché, on reconnaît par la loi. Parce que quand la loi dit que tu ne feras pas ça, on le fait. La loi nous condamne. C'était ça le but. Comme je l'ai dit, c'est pas que Dieu a fait une erreur. C'était une révélation progressive pour nous emmener, pour nous conduire à voir notre besoin d'un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui était l'importance. Pas parce que c'est une erreur, c'est parce que Dieu avait un but à atteindre, nous montrer notre faillite. Parce que sans nous montrer notre faillite, on n'aurait jamais eu besoin d'un sauveur. On aurait pensé qu'on n'aurait pas besoin d'un sauveur. Mais en voyant notre faillite, vous savez, on est orgueilleux. Puis c'est le péché, l'origine du péché, c'est l'orgueil. Parce que Satan, il a voulu être au-dessus du Très-Haut. C'était dans son orgueil, il s'est tourné vers lui. Donc, la solution, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est l'humiliation. Puis l'ancienne alliance était pour nous emmener dans l'humiliation, pour dire, regarde, t'es pas à la hauteur. Tu as besoin, tu n'es pas capable de la garder, la loi. La loi est bonne, est parfaite, mais toi, tu es un pécheur, tu n'es pas capable de garder la loi. Puis c'est pour ça que les gens qui se remettent sous la loi, ça ne marche pas, là. Ils sont pas capables. Ils ont toujours une façon d'échapper qu'ils se font eux-mêmes. Comme les Juifs, hein. Les Juifs étaient habiles à essayer de détourner la loi. Vous savez, quand à Montréal, ils disent que les Juifs, ils ont un petit morceau de terrain partout dans la ville de Montréal. Comme ça serait un pied carré, puis ils ne veulent pas vendre ça. Là. Parce qu'ils disaient que le jour du sabbat, il n'y avait pas le droit de s'éloigner de plus qu'un chemin de sabbat. Mais s'il y avait des propriétés partout dans la ville, ben, ils pouvaient se promener dans la ville à grandeur le jour du sabbat, parce qu'ils étaient tout à près d'une de leurs propriétés. Puis ben, aussi, je lisais dans le journal qu'ils disaient que les Juifs, il fallait qu'ils donnent un sabbat à la terre. Puis encore aujourd'hui, il fallait qu'ils donnent un sabbat à la terre. Mais savez-vous comment ils contournent cette loi-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur terre pour un an, pour une récolte à des païens, la septième année. Fait que là, ils la cultivent pour eux. Donc, ce n'est pas eux autres qui. Ils donnent pas le sabbat à la terre, mais ce n'est plus eux autres. Donc, les païens, ils n'ont pas besoin de donner le sabbat à la terre, ils ne sont pas sous la loi. Et ils ont toutes sortes de façons. Puis, même dans la religion, là, on avait toutes sortes de façons. Quand on péchait, on payait. On faisait des pénitences. Mais ce n'est pas ça. La loi était pour nous montrer qu'on avait besoin d'un sauveur. C'était pour nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Puis lui, c'est lui qui nous sauve de notre péché. Donc, c'était ça le but de la loi. Mais il dit dans le verset 10, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voyez-vous, l'intimité ici de cette relation-là maintenant avec lui, là, maintenant, avant ça, la loi était écrite sur des tables de pierre. Puis Moïse les a cassées quand il est descendu de la montagne, parce que tout de suite, quand il arrivait avec la loi, il avait déjà brisé la loi, parce qu'il disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux. Ben, il avait déjà fait un veau d'or. Quand Moïse était sur la montagne pour recevoir la loi, il avait déjà brisé avant qu'elle arrive à eux. Puis Moïse a cassé les tables de la loi. Mais là, maintenant, il dit qu'il va les écrire dans notre esprit, puis dans notre cœur. C'est plus sur des tables de pierre. Ça, c'est la relation que le Seigneur annonçait à ses disciples ici dans Jean 14, 16 à 17. Il dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Lui était un consolateur, un autre consolateur de la même sorte que lui, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça qu'il dit qu'il va l'écrire dans notre esprit et dans notre cœur. Imaginez-vous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, il rend témoignage à notre esprit. Il nous convainc quand on a du péché. Quand on va dans le péché, le Saint-Esprit nous convainc, mais il nous pousse à la repentance. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le Seigneur Jésus était avec eux et maintenant il allait habiter en eux pour l'éternité. C'est ça. Fait que là, mais ici, au verset 11 aussi, il dit, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Vous savez, ça, c'est quelque chose. Des fois, il y a des gens qui disent, ben, on n'a plus besoin d'être enseigné parce que cet esprit nous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir l'enseignement. On reçoit, comme le Seigneur il nous dit, de s'édifier les uns les autres. On a besoin de s'enseigner dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Vous savez, Moi, quand celui qui m'a prêché l'Évangile, il m'avait dit, il dit, quand le Seigneur va te parler, tu n'as pas besoin de personne. C'est entre toi et puis lui. Puis il dit, tu as juste à t'agenouiller auprès de ton lit, puis de confesser ton péché, puis de croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Puis quand tu vas te lever de là, tu vas être un homme nouveau. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait à ce moment-là. Mais quand le Seigneur m'a parlé dans Matthieu 13, c'est ça que j'ai fait, j'étais au pied de mon lit. Puis je me suis mis à genoux, puis j'ai compris le salut. Puis quand quelqu'un est sauvé, il va le témoigner. Puis là, je savais que j'étais sauvé, mais c'est vraiment, je savais que je connaissais le Seigneur ici, comme il dit ici, car personne ni personne son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et le plus petit là, qui est sauvé, là, moi j'étais juste un petit enfant, je ne connaissais rien, mais je savais une chose, je savais que j'étais sauvé. Puis c'est ça qu'il dit, comme l'homme aveugle de naissance que le Seigneur a guéri, il dit, là, il a commencé à lui poser des questions théologiques, mais il dit ça, je ne sais pas, mais je sais une chose. Je sais que j'étais aveugle, puis maintenant je vois ça, je le sais, puis il ne pouvait pas le nier non plus. Eux, ils ne pouvaient pas le nier parce que c'était celui qui était aveugle de naissance, puis là maintenant il voyait. Mais comment est-ce qu'il voit? Ses parents n'osaient pas le dire, mais lui, il disait, c'est Jésus qui, lui, il m'a donné la vue. Puis ça, il savait ça. Les chefs religieux, ils ne savaient pas, mais lui, il savait. Puis c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que on ne reçoit pas de l'enseignement, mais par rapport au salut, celui qui est sauvé le sait, connaît, parce que le Saint-Esprit rend témoignage sur l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean 14, 26, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 1 Jean 2, 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc c'est ça, la connaissance du salut, on l'a eu par l'Esprit de Dieu qui nous a éclairés dans la parole de Dieu, nous a fait comprendre le salut. Puis, quand on s'est tourné vers lui, il nous a fait comprendre le salut. Puis, quand on a mis notre confiance dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, ben, le Saint-Esprit a témoigné à notre esprit qu'on était des enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui a vraiment connu le salut sait ces choses-là. Puis, c'est lui qui va en témoigner aux autres. C'est pour ça qu'on ne dit jamais à quelqu'un, là, t'es sauvé. Ça, ce n'est pas notre job à nous autres. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. C'est lui qui va confesser. Si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Dans Romains 10, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Fait que c'est ça qui est important. OK, on est rendu à, il nous reste juste une dizaine de minutes. Fait que on va s'arrêter là pour ce soir, puis je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro pour si vous avez si vous avez des questions ou des commentaires à faire, okay, là, vous avez la possibilité. Puis Lévi me demandait, il dit, ça ne dérange pas que je pose des questions. Non, on est bien content quand il y a des questions, mais ça alimente la conversation, puis c'est bien important. Mais avant les questions, je vais vous dire, la semaine prochaine, je vais être à la TUC. Ça se peut que je sois capable d'avoir la réunion, mais je ne suis pas encore sûr si je vais avoir. Je vais le laisser savoir à Denis, puis Denis va nous donner, il va nous faire l'invitation ou l'avertissement quand je ne pourrai pas. Ça fait que si je peux avoir une place pour le faire là-dessus, je vais le faire, mais je vais vous laisser savoir. Ça fait que je vous laisse la parole.
Oui, merci de me donner la permission encore, Laurent. J'aimerais revenir dans l'Apocalypse
OK.
21, parce que tu as mentionné que Dieu est esprit, on le sait, hein? Dieu est esprit, puis les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3, ça dit: J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alors, le verset précédent, il est question de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alors, on peut dire que la Nouvelle Jérusalem, c'est le tabernacle de Dieu, mais qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que Dieu avec les hommes, j'imagine. Si Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Ça veut dire que Dieu ici, c'est le Seigneur.
Ouais. Mais on va le voir, quand on va être avec lui au ciel, on va le voir. Mais c'est comme quand quelqu'un meurt, il y a des gens un peu comme Denis Lapierre quand il a failli mourir. Puis on voit, on dirait qu'on voit, mais on ne voit pas nécessairement avec les yeux. Mais on est capable de connaître. On va voir Dieu même s'il est esprit, parce qu'on va être en esprit, nous autres aussi.
Donc, on va voir le Seigneur, on va voir Dieu.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il va être là sur son trône dans sa majesté, mais on va être capable de voir. Parce qu'on va être esprit, nous autres, on va avoir un corps, mais on va avoir aussi un esprit.
OK.
Dans
Dans la même,
Oui,
OK.
notre esprit va être, il va communiquer avec Dieu, on va communiquer avec Dieu. Ouais.
OK. Je reviens dans Jean, l'évangile de Jean, à peu près la même réflexion, là. C'est très simple, là. On connaît les versets. L'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27, 28 et 29. Alors, je le lis, le verset 26, 27, c'est-à-dire, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, c'est la voix de Jésus qu'on entend. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, c'est-à-dire du Seigneur, Jésus. Alors, le verset 29, ça dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Alors, là, il ne dit pas, mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Il dit, est plus grand que tous. Ça veut dire qu'il s'exclut. Il s'exclut à ce moment-là. Donc, c'est pourquoi que je voyais à travers cela que Jésus s'identifie bien au Père, le verset 30, là. Moi et le Père, nous sommes un.
C'est ça, parce que le Seigneur, quand il disait, c'est pour ça comme des fois les témoins de Jéhovah nous disent, le Seigneur Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Mais c'est parce que lui s'était abaissé. Il s'était humilié, puis il avait pris la forme d'un serviteur dans son humiliation. Mais il dit, il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il est égal, même s'il y a un rôle de soumission, il est égal à Dieu. Mais dans son humiliation, quand il est venu sur la terre, c'est sûr que le Seigneur Jésus, il a voilé sa gloire pour venir sur la terre, parce qu'on n'aurait pas été capable de le voir. Mais dans des occasions, ceux qui étaient avec lui ont pu voir une partie de sa gloire. C'est comme si le voile se levait des fois. Quand il était dans la barque, qu'il a dit à la mer, silence, tais-toi, puis au vent, cesse de cesser. Ils ont dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, ils ont vu une partie de sa gloire. Puis, quand ils étaient sur la montagne aussi, ils ont vu une partie de sa gloire. Mais c'est du fait que le Seigneur Jésus s'est humilié dans son humiliation, dans cette forme humble qu'il est venu dans un corps comme un simple homme, mais comme un homme tout en étant Dieu. Et sa gloire était voilée, c'est dans ce sens-là qu'il pouvait dire le Père est plus grand que moi. Mais il est égal au Père. Il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
C'est bon, merci.
Il y en a qui ont de la difficulté à prendre leur micro, juste à me faire signe. Des fois, ça arrive quand on ne prend pas tout de suite qu'il faut que je vous redonne la possibilité de le faire.
Au chapitre 8 d'Hébreux,
Oui.
à partir du milieu du verset 9, c'est marqué: Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit: Je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur?
C'est parce qu'il les a laissés aller, comme on disait tantôt. C'était les autres, ils n'ont pas persévéré. Il avait dit, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple. Comme on avait lu dans Deutéronome 7, puis dans Exode 19. Là. Donc, il y avait une condition, c'est si il gardait son alliance. C'est ça qui allait être pour eux. Mais il ne s'est pas soucié de Dieu. C'est comme si il les a laissés aller
Les
pour qu'ils
Alors.
réalisent. T'sais, le but de ça, c'était qu'ils réalisent qu'ils manquaient. Eux ont manqué à l'alliance. Ce n'est pas lui qui a manqué à l'alliance. Mais Dieu, il les a comme laissés aller pour qu'ils comprennent qu'ils avaient besoin de cette nouvelle alliance-là, qui est maintenant. Parce que cette alliance-là, maintenant, est basée non sur le fait qu'eux soient obéissants, mais sur le fait que le Seigneur Jésus soit obéissant. C'est ça qu'il donne dans la nouvelle alliance, c'est que c'est lui il demeure obéissant, il est toujours obéissant, puis c'est lui qui garde, il est le garant de cette alliance-là, qui est une meilleure alliance, cette alliance nouvelle-là.
Merci. Gérald, si
Oui.
l'Esprit Saint ne s'était pas manifesté en nous, à la nouvelle alliance, on ne serait proprement pas mieux que le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Hein? Diriez-vous ça?
Ben oui, c'est certain. Hein? C'est pour ça qu'il l'a maintenant. C'est pour ça qu'il dit que maintenant, je vais écrire dans leur esprit, pas sur des tables de pierre, mais dans leur esprit puis dans leur cœur. Fait que c'est ça que nous autres, on a l'esprit en nous, puis le fait qu'on sait quand l'esprit est venu nous habiter, ben c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, ben, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça a transformé nos désirs, ça a transformé. Maintenant, on a le désir de connaître le Seigneur. On a plus le désir de pécher, là. Ben, on ne veut pas dire qu'on n'a pas le désir de pécher, mais le péché nous dérange beaucoup plus qu'auparavant, là. Parce que l'esprit nous convainc de pécher. Il y avait quelqu'un qui était, qui il avait un problème avec la cigarette, puis
Moi,
il
je
s'est converti.
Seigneur, Seigneur,
Quand il
je
s'est
dis que
converti, il était découragé un peu parce qu'il dit. Celui qui avait prêché l'évangile, il vient et dit, regarde, je ne suis pas mieux qu'avant. Il dit, avant ça, je fumais, puis je fume encore. Fait que là, le gars, il dit, ouais, mais il dit, avant ça te dérangeait-tu que tu fumais? Il dit, non. Puis il dit, là, est-ce que ça te dérange que tu fumes? Ben, il dit, oui, ça me dérange. Ben, c'est ça la différence. Il y avait une différence.
Ouais.
Merci, Gérald.
On n'est pas parfait, on pêche encore, mais quand on pêche, c'est pas comme avant. Parce que l'esprit qui habite en nous, il nous convainc. Puis on attriste l'esprit.
J'ai envie de
Oui.
lire. Je cherche un verset. Je vais lire un passage qui va un petit peu dans ce sens-là. On le connaît, là, encore une fois. Ça dit de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il reçoive en retour? C'est lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est fameux, hein? C'est fameux ces versets-là.
Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ça fait ça. Ouais. Parce qu'il fallait que tous on reconnaisse notre désobéissance pour obtenir miséricorde. C'était ça le but de Dieu.
Fait
Bienvenue.
qu'on voit que dans la loi, puis dans le Nouveau Testament, disons, il y a des pécheurs, puis il faut qu'ils viennent à la repentance.
Exactement. L'horloge sonne. Elle est rendue à
Oh là là, Gérald, on n'a pas
l'heure.
entendu parler.
D'accord, on fait bien faire un mot de prière, puis c'est comme je dis toujours, s'il y en a qui veulent continuer à jaser, mais les autres qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu,
Excusez-moi.
je te remercie de la grandeur de tes plans, Seigneur, de tes voix qui ne sont pas nos voix, mais toi, Seigneur, tu as pensé à toutes choses et tu voulais nous montrer, Seigneur, qu'on avait besoin d'un sauveur. Puis on te remercie que tu nous as donné cette ancienne alliance-là qui nous a amené à comprendre qu'on avait besoin d'un sauveur pour nous conduire à Christ. Et maintenant, on te remercie parce qu'en lui, on a trouvé le salut parfait, merveilleux. On veut te rendre grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.